Matthieu 13. Il y a plusieurs paraboles dans Matthieu 13, j'en ai déjà commenté plusieurs. Maintenant, c'est versets 45 à 46 avec le marchand. Ah, le marchand. Les sacrés marchands du monde, hein. Matthieu 13, verset 45. Si par hasard l'année prochaine plusieurs s'engagent à faire une prédication par mois, une présidence par mois, qui est une tournante, et qui a par exemple en plus de Benjamin qui devra aller un peu à droite et gauche, ce ne sera pas tout le temps là, qui a un autre étudiant qui vient, je pense qu'il y a moyen, je prêche une fois tous les deux mois et puis c'est tout, et il faut s'habituer quand même à, parce que l'église c'est pas l'église de Jean Bayeux, c'est l'église du Seigneur. Matthieu 13, versets 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. J'ai commenté les autres paraboles, je ne reviendrai pas dessus, c'est trop complexe, c'est vaste. Je le ferai peut-être demain avec les personnes qui viennent de Compiègne, il y a trois dames ici, qui viennent de Compiègne, et je le ferai demain matin pour les paraboles qu'elles n'auront pas entendues, succinctement. D'abord, il faut bien se rendre compte, si vous allez dans Matthieu, au chapitre 21, de quoi est-ce que c'est qu'un marchand ? Nous ne faisons pas d'illusions. Il faut voir ce que Dieu en pense. Parce que nous, nous en pensons, et pas si le marchand, c'est un beau métier, etc., etc. Matthieu 21, versets 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Regardez la position de Jésus. Bon, maintenant allez dans le début de l'évangile de Jean. Jean, lui, a mis cet événement-là au début de son évangile. Alors, que dans Marc, Luc et Matthieu, c'est mis à la fin. Eh bien, c'est tellement important pour Jean qu'il les met au début. Ça ne veut pas dire que Jean s'est trompé, non. Mais Jean organise son message pour axer, à la fin du premier siècle, axer l'Église sur quelque chose, abandonner cet esprit marchand qui a ruiné la religion de Dieu et des prophètes, et que Jésus a fustigé, abandonné cet esprit marchand. Il ne doit pas rentrer dans l'Église. Donc, dans Jean, à un moment donné, vous voyez qu'il est dans le temple. Chapitre 2, verset 13, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Écoutez bien, c'est quelque chose de capital. Alors, dans Ésaïe, au chapitre 56, verset 7, 8 siècles avant, 9 siècles avant l'évangile de Jean, Ésaïe, c'est en 780 avant Jésus, 760, Ésaïe 56, verset 7. Ce n'est pas très clair hein, ici. Donc on améliore ça un jour parce que. Quand Annette n'est pas là, c'est que vraiment elle a des soucis de santé. Priez pour elle quand vous ne la voyez pas. Elle est très courageuse, mais sa santé est très limitée. Hein. Très, très limitée. N'oubliez pas aussi de rendre visite à Serge Hullard, à Vlone, c'est important. Et à Irène, ils sont tellement contents de nous voir. Ésaïe, chapitre 56, verset 7. Je vais commencer au verset 6. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Aux siens déjà rassemblés, ben, pour le moment c'est ça. Hein. Vous voyez l'antisémitisme en Europe et tout ça qui se développe, surtout en France, en Allemagne, ben, ça les pousse, malgré eux, parce qu'ils sont tellement peinards partout, hein, et ça les pousse à aller en Israël. Ça, c'est en main de Dieu. Hein. Et pratiquement, vous voyez que d'autres peuples sont rassemblés. Ben, allez, j'irai une fois en Israël. Plusieurs veulent venir avec moi. Vous allez voir qu'il y en a des tas de peuples, hein, là. C'est vraiment ça. Hein. Vous savez qu'il y a 1,5 million de personnes qui parlent russe en Israël. Il y a des quartiers entiers avec des magasins et de tout. Hein? Vous en avez qui parlent bulgare, qui parlent ukrainien, des autres qui parlent roumain, et puis éthiopien, érythréen. Mais Israël, c'est accompli, c'est en route. C'est pas des fables tout ça. Alors, Jérémie chapitre 7, c'est un peu après Isaïe. Jérémie chapitre 7, verset 11. Jérémie chapitre 7. Alors je vais commencer juste un peu avant parce qu'il faut voir, hein, au verset 8. Mais voici, Jérémie 7, verset 8. Vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. C'est ça le commerce, hein? Business, business, hein? Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, donc des divinités avec des sacrifices humains, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Bon. Vous savez, les prophètes, ils n'avaient pas facile. Quand Dieu les envoyait dire des choses pareilles, oulala, le prophète savait déjà que il était accueilli à boulet rouge. Hein? Alors, le pire, c'est que il y a d'autres prophéties. Zacharie 14, 21. Et vous allez voir que Dieu dit quelque chose sur les marchands qui est très important. Zacharie, c'est juste avant Matthieu. Zacharie, il y a Matthieu, Malachie, tout ça. Et juste avant Malachie, il y a Zacharie. Zacharie, chapitre 14, verset 21. Il faut prendre du temps dans la Bible. Tout ce que je vous prêche, avec toutes les notes que je vous donne, n'importe où je vais, je ne les prends jamais dans des livres. Je lis ma Bible, et il faut travailler la Bible. Et c'est à force de la lire que tout cela, le Seigneur m'éclaire avec des versets qui sont... La Bible éclaire la Bible. Si je suis imbibé de la Bible, aussi... Dieu vous le demande, et je suis certain, je l'espère en tout cas, que plusieurs sont attelés à lire la Bible régulièrement. Zacharie 14, verset 21. Zacharie, donc 6e siècle avant Jésus, hein, Zacharie. Alors, verset 21. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Il n'y aura plus de marchands. Dieu en a marre du commerce. Ça lui monte au-dessus de la tête, le commerce. Vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris? Prenez Apocalypse. ce commerce. Et vous voyez quelle ampleur il prend, ce commerce, dans le monde. Et vous voyez, des enfants chrétiens, ils vont dans le business. Ils bossent, ils courent après les sous. Attention, on ne peut pas avoir deux dieux, Mammon et Seigneur. Attention. Alors, au chapitre 18, je ne vais pas tout lire parce que c'est long. Chapitre 18, verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, dont la grande civilisation du commerce, la grande Babylone, hein ? Oui, vous voulez savoir si c'est vrai ? Eh bien, vous regardez au verset 2. Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Impudicité, azelia, ça veut dire dérèglement en tout genre. Hein. Alors, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Les voilà les marchands de la terre. Si vous lisez au verset 10, « Malheur, malheur, la grande ville de Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Paf, tous les ordinateurs tombent en panne. Ça y est, il n'y a plus d'avions qui démarrent, il n'y a plus de bateaux qui communiquent avec la bourse. Le commerce est à zéro, vous n'avez pas une rondelle de saucisse, ni un litre d'essence. Une heure. Une heure, les amis. Une projection solaire à 300 km au lieu de 110, 120. Tous les ordinateurs s'arrêtent. C'est quoi ? Les téléphones portables, c'est quoi ? Vous êtes comment ? Vous allez vivre comme avec votre gourdin dans les crottes, hein ? Mais si vous êtes un vieux malin, préparez-vous, parce que la grande Babylone tombera. Elle tombera. Je lis un peu plus loin, au verset 15. « Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront, ils seront dans le deuil, les pauvres. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, de pareille d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Ben, » si Dieu l'a voulu. Vous voyez hein, comment le grand président chinois, il a dit dans un de ses discours, « Je serai le grand guide du monde. » Par le commerce que la Chine dirigera. Attends toujours, mon petit pote, que le Seigneur t'arrête. Attends, mon petit pote, le Seigneur t'arrêtera comme les autres. Laissez-le courir avec son air imperturbable, là. C'est des démons qui parlent par lui. Pas l'esprit humain, ça. Le grand dragon de la Bible à la fin des temps. C'est quoi ? Regardez le symbole de la Chine. Alors, nous revenons à la parabole du marchand. Nous savons ce que Dieu pense des marchands et du commerce maintenant. Comprenez ? Matthieu 13, versets 45 à 46. Ah, vous pouvez être un commerçant honnête. Évidemment. Évidemment. Mais attention à ce que vous vendez. Attention à ce que vous vendez. Attention à la façon dont vous comportez avec vos clients. Si c'est pour les tromper, les séduire et leur extorquer leur sous. Alors vous êtes un marchand, un commerçant comme ceux du monde. Si vous voulez être un commerçant chrétien, attention, vous avez des règles, un cadre, la droiture, la probité, dans Saint-Esprit. Donc cette parabole avec le marchand, pour moi, et le royaume des cieux, qui a des belles perles, qui s'est enrichi, oui. Eh bien, il a trouvé une grande perle d'un grand prix. Il la veut absolument. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est vanité tout ce qu'il fait. Vanité. Cette parabole-là précède tout juste une autre. Il y en a une autre après, c'est sur le jugement. Elle est d'une grande importance. Hein ? Une importance remarquable. Rappelons-nous Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Il faut se rappeler, il faut faire un tour dans tous les enseignements de Jésus. Dans Matthieu 19, verset 16, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Tiens, le blague, il cherche la perle, celui-là. Mais vous allez voir, hein ? Il a plein d'autres pères et il est riche. C'est ça le problème. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et donc Jésus refuse d'être flatté et d'être entourloupé. Tu me donneras bien une place au paradis, va. Tu es si gentil avec tout le monde. Et Jésus, non, moi je ne suis pas si gentil que ça. Je vais revenir pour juger un jour. Tu ne m'achèteras pas, mon petit pote. Allez, dis un peu tout ce que tu veux. Et puis je te dirai ce que je pense. Lesquels, lui dit-il, hein, parce que Jésus lui a dit, si tu observes, tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il prend toute la deuxième partie des 10 commandements qui concerne les relations avec le prochain, où cet homme n'est pas intègre. Les 3 premiers commandements, où c'est Dieu, il sanctifie Dieu, ben oui, il le fait, lui. Mais pour ce qui est avec les humains sur la terre, bof. Puisque je suis sauvé, puisque je crois en Dieu, moi quand je sors de la prière, business is business. L'amour du monde. Alors, il lui dit, Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh là là, paf. L'arête du poisson à travers la gorge. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Donc il est assez prétentieux parce qu'il est persuadé qu'il est en ordre. Il a un but. C'est un parfait légaliste, mais la loi l'a rendu présomptueux. Et qu'est-ce que Dieu peut faire pour un présomptueux qui est persuadé qu'il est tout en ordre? Pas facile, hein? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Il va devoir abandonner toutes ses perles, toutes ses richesses, de la parabole de Matthieu 13, pour avoir la vraie perle. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh. Avec des histoires, des paroles pareilles, chaque fois qu'il voyait arriver, écoutez bien, hein, soit ils tournaient le dos et se sauvaient, soit ils étaient tellement travaillés. Mais de toute façon, il a raison, j'ai envie de l'entendre. Et puis il y avait deux qui disent, moi je suis convaincu, il dit la vérité, j'y vais. Mais entre les deux, il y avait un paquet. Il nous prend en contrepoil chaque fois, il nous remet en question, quand est-ce qu'il va arrêter? Pourtant il est gentil, il nous aime, il mange à table avec nous, il guérit les malades, mais quand il parle, ben il ne nous rate pas. Bon, il faut voir. C'est ça la parole de Dieu, hein? C'est pas pour flatter le péché, c'est pour dénoncer le péché et amener la repentance. Alors, il y a quelque chose de très important dans la Bible. C'est qu'un jour, les 12 tribus d'Israël seront jugées chaque fois par un apôtre sur un trône. La radicalité de la conversion est demandée à Israël. Jésus parle à des juifs. Il leur demande de se convertir. Ah oui, hein? Mais ils ont l'esprit marchand, les descendants d'Isaac et de Jacob. On le sait. Et pourtant, le marchand n'est pas apprécié dans la Bible. Pour son activité spéculative, voire douteuse, c'est souillé. Son activité sera un jour totalement disparue. Les enfants d'Isaac et de Jacob, comme ceux d'Ismaël, devront abandonner le business. Pour les descendants d'Ismaël, c'est le pétrole. Jerrycan. Hein? Jerrycan, oui. Alors, Apocalypse 18, nous avons vu. Malachie maintenant, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Versets 1 à 6. Et regardez bien, il y a des choses terribles. Hein? J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, hein, un peu avant Matthieu. Ça va? Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Vous vous rappelez la transfiguration de Jésus sur le mont Hermon, au pied du mont Hermon, devant Pierre, Jacques et Jean? C'était la description qu'il donne Marc, Matthieu et Luc. Et il s'asseyera, il fondra et purifiera l'argent. Vous avez vu? Je m'excuse du mot, le foutu fric du monde. Vous avez vu ce qu'il y a? Il s'asseyera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il va donc commencer par les Juifs. Mais ils sont forts en argent, eux. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice, avec droiture, sincérité, justice, probité, comme Christ. Alors, l'offrande de Judas de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, de l'ouvrier, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. J'aurais pu vous consumer. Je vais vous purifier, c'est différent. Vous voyez ça? Donc là, il faut savoir qu'à un moment donné, cette parabole avec les perles, où le marchand abandonne toutes ses perles, il va vers une vraie perle, la totale. Il doit abandonner les autres. C'est un temps pour Israël de purification. En Christ, évidemment. Ésaïe 56, verset 1. Je bénis toutes les nuits et toutes ces heures passées le Seigneur dans sa parole. Pourquoi? Parce que ça me saute aux yeux, à force de lire, ça me saute aux yeux. C'est tout clair son message. Tout clair. Mais, il faut y mettre le paquet, hein. Le Seigneur, il éclaire celui qui a demandé à être éclairé et qui rigole pas avec lui. Et vous êtes des enfants de Dieu. Prenez le temps dans la parole. Vous êtes, je suis certain, quand je vois comment présente le culte trois jeunes hommes de l'église, c'est qu'ils passent du temps dans la parole. Autrement, ils ne le feraient pas comme ça. Alors pourquoi pas tout le monde? Pour gagner des hommes partout dans la région, pour le Seigneur avant son retour. Ésaïe 56, verset 1. Ainsi, Ésaïe 56, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela. Hein? Et vous voyez qu'à ce moment-là, des étrangers vont s'attacher à Israël. Verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me séparera de son peuple. Regardez verset 6. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, etc. C'est ouvert. C'est fini. L'Israël n'est plus fermé, égocentrique, refermé sur ses vilaines manies sécuritaires. En premier, le fric. Et les traditions. 66, Ésaïe 66. Verset 10. Ré 66, verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Des petites brebis, Comme un homme que sa mère console, ainsi vous consolerez, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, votre cœur sera dans la joie, vos os reprendront de la vigueur comme l'air. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, il fera sentir sa colère à ses ennemis. Adieu le commerce, adieu toutes les petites perles. Maintenant, la grosse perle, c'est quoi alors? Je vous ai dit qu'il y a des versets dans Matthieu où chaque apôtre va juger une tribu quand Jésus est là. Et il y a 12 apôtres, 12 tribus. Et dans Jérusalem céleste, il y a des murailles, il y a 12 portes. Dans Apocalypse, comment sont les portes? Comment sont les portes d'Israël dans l'Israël nouveau, dans Jérusalem céleste? Alors, si vous me le trouvez, vous me le dites. Comment, de quoi sont faites les portes de Jérusalem pour chaque tribu?
Chapitre 21, verset 12.
Chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 12. Donc l'éclat de la Jérusalem céleste qui descend sur terre, hein, son éclat est, au verset 11, son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre à jaspe, transparente comme le cristal. Figurez-vous que c'est ça que Moïse a vu, hein, dans Genèse, avec les 70 responsables d'Israël. Donc, hop, à la fin des temps, de nouveau, et... Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et les noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes, etc. Vous voyez, de chaque côté. Verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur elle, les 12 noms des 12 apôtres. Voilà, et puis après, regardez comment sont faites les portes, où vous trouvez le verset. Comment? Au verset 21, chapitre Apocalypse 21, verset 21, regardez bien, hein, là voilà la perle. Pour chaque tribu, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. Vous imaginez, j'ai fait le tour des murailles pour voir, hein, moi. Je pensais à tout ça. Il faut lire sa Bible pour aller visiter Israël, autrement on est comme un nigo, on visite tout et puis on n'a rien compris. Et on ne comprend pas encore assez, bien sûr, il faut demander de l'aide du Seigneur. Et si on a entre plusieurs chrétiens qu'on lit la Bible en étant en Israël, c'est incroyable ce qui se passe dans nos âmes, dans notre cœur. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme de verre transparent. L'or pur, c'est l'adoration. Hein. Et vous rappelez-vous, Malachie 3, hein, je purifierai l'or et l'argent des fils de Lévi. Tiens, le voilà l'or pur. Pas une adoration souillée avec l'esprit du monde et avec du trafic dans l'âme. Pas de péché en présence de Dieu dans Jérusalem céleste. Alors, la parabole du marchand, vous l'avez compris, c'est tout simplement l'annonce du salut d'Israël par la purification du peuple d'Israël. Il doit abandonner toutes ses perles, toutes ses manies. Mais comment que ça se fait? Comment que ça se fait qu'Israël est tombé dans tout ça alors qu'il a la Bible et les prophètes? Eh bien, parce que, à l'époque de Jésus, les métiers nobles, c'était l'agriculture. Hein? C'était le berger, le roi, le prêtre, le scribe, le prophète, le viticulteur, mais surtout pas le marchand et l'artiste. Métier de basse classe et du diable. Plus tard, quand le christianisme se développe, avec plusieurs pères de l'Église, on devient anti-juif progressivement. Jean Chrysostome et d'autres, on devient anti-juif. Et pour finir, on dit qu'Israël n'a plus de promesses et ne sera jamais sauvé. Et l'Église de Rome et de Constantinople disent « c'est nous le nouvel Israël ». Ça s'appelle la substitution d'Israël. Cette théologie est diabolique, parce qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas biblique. Alors, on a jeté un discrédit sur les Juifs, ils n'ont pas pu faire de la culture. Ils n'ont pas pu être dans les métiers, magistrats, etc., tout. Ils ont dû faire les métiers maudits. C'est bon pour eux, puisque c'est des maudits. Ils ont tué Jésus. Et c'était quoi les métiers maudits? L'argent et les arts. Et regardez aujourd'hui où ils en sont. Ils sont les maîtres de l'argent et des arts. Et des films, etc. N'est-ce pas? Spielberg, c'est qui? Et tous les autres. Hein? Il y en a un paquet. Hein? Regardez tous les acteurs de cinéma français. Au moins un sur deux est juif. Hein? Et regardez tous les personnes à la télévision, les présentateurs. Je ne sais pas si vous êtes observateur, mais moi je me renseigne. Au moins un sur deux est juif, si pas deux, sur trois. Ben oui, puisqu'on les a tapés là-dedans, ben eux, ils sont intelligents, ils ont pris le contrôle de ça. Hein? Et on se plaindra d'eux. Hmm? On se plaindra d'eux, ben oui, mais on les a tapés là-dedans. Ils ont été aiguillés vers les métiers du diable, le commerce, la banque, les arts. Et pour finir, qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Ils réussissaient tellement. Banco, c'est un banc, comme il y en a là dans la cour. Banco. Hein? Eh bien, en italien, eh bien, pratiquement, ils venaient dans les lieux, sur les places, à Venise, autre part, avec leur argent. Ils venaient des peuplades, ils mettaient l'argent dessus et ils faisaient des changes, comme moi j'ai vu en Afrique. En Afrique, il y a des gens, là, ils sont à droite et gauche, avec plein de pieds, et puis, ils changent. Vas-y, Nénès, hein, vous riez, mais... Eh bien, banco, le banc, sur le banc, tac, tac, tac. Et bien, c'est devenu le mot banque. Et qui sont les maîtres des banques? Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, et tous les autres. Monsieur Macron était à l'école de Rothschild. Et tous les autres. Et tous les autres. Et... toutes les guerres du Moyen-Âge et de la fin du XXe siècle ont été subsidiées par l'argent des Juifs. Parce que les rois voulaient faire des guerres, et pour faire des guerres, il faut des sous. Vous allez chez les Juifs les demander. Quand la guerre était finie, il fallait rendre. Et les pays sont endettés. Regardez l'endettement de l'Europe. Vous avez compris maintenant pourquoi en Europe on est tous endettés, hein? Et puis quand on n'a plus fait de guerre chez nous, on a été en faire chez les autres. Mais encore il faut dépenser. Mais il faut encore emprunter. Madre mia. Alors, les Juifs ont été poussés à faire un métier pourri à cause de leur péché, à cause du péché de nous tous. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Alors, cet Israël qui aujourd'hui, par la force des choses, a été poussé à jouer un rôle important, hein? Eh bien, un jour, il va tout perdre. Hein? Il va perdre ses perles pour trouver la vraie perle. Parce que pour rentrer dans Jérusalem céleste, il faut passer par une porte. Chaque tribu, la belle perle. Et les autres perles. Alors, les grandes prophéties sur la richesse d'Israël, sur l'Israël d'aujourd'hui. Eh bien, regardons. Ésaïe 60. Est-ce un hasard qu'il soit si riche? N'est-ce pas quelque chose de préparer par Dieu pour mieux les confondre. Et nous avec. On n'est pas meilleurs, je vous le dis. Il ne faut pas être anti-juif. Quand je parle du peuple juif, je ne suis pas anti-juif. Hein. Ils me font la caisse. Hein. Alors, 60. Ésaïe 60, verset 16. On va commencer... au verset 5, tu tressailliras, alors tu te réjouiras, ton cœur bondira, se dilatera. Ésaïe 60, verset 5. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Alors on cite tous les pays, et il n'y en a pas un qui échappe, hein. Même les Arabes, hein, ils apportent de l'Afrique à eux. Kedar, Nabajot, c'est des peuples arabes, ça. Tout le monde, allez, hop! Hein? Et regardez bien, hein, au verset 9, les îles espèrent en toi. Donc, les nations, les peuples, ils aiment le fric, ils espèrent. Si leur banque tient, nous on tient. On aura toujours nos vacances, nos skis, nos sécurités sociales, nos pensions. Si eux s'écroulent, nous, tout s'écroule. Donc, on ne les aime pas, mais il faut qu'ils tiennent. Il faut qu'ils tiennent bon. Alors, M. Macron fait une loi. Toutes vos économies en France, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez fait des économies ou pas, toutes vos économies, si la banque se casse la pipe, eh bien, on prendra vos économies, vous ne rentrez pas, on renflouera la banque. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si ces banques tombent, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, si les Juifs, au niveau financier, tombent, on est zéro. Quick, quick. Verset 9. Les îles espèrent en moi, les navires de Tarsis et Tarragone, l'Espagne, sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. C'est à cause de Dieu qu'ils s'enrichissent. C'est pas du hasard. Maintenant qu'on les a tellement mis à pratiquer l'amour du mal, de l'argent, maintenant Dieu dit, eh bien on va aller plus loin. On va aller plus loin, comme ça je confondrai tout le monde. Alors, dans le chapitre 60, verset 14, « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. » Tout ce qui a été reconstruit en Israël, les centrales nucléaires, les centrales électriques, les hôpitaux, c'est tout du matériel allemand, payé par l'Allemagne pour tous les Juifs qu'ils ont brûlés. Et ils sont encore en train de payer. Comprenez-vous pourquoi Israël s'est reconstruit si vite? Les oppresseurs sont en train de débourser encore maintenant. S'humilier devant toi. Alors, verset 16. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, tu sauras que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Vous voyez bien à quel point dans les prophéties Dieu prend autorité sur l'histoire malgré le péché pourri des hommes, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Et Dieu nous conduit quelque part, abandonner les perles et trouver la vraie perle. Vous d'abord les juifs, quand vous serez rentrés, je ferai rentrer derrière chacune de vos tribus toutes les nations à Jérusalem. Et pourquoi donc? Ésaïe 25. Et pourquoi donc faire quoi à Jérusalem? Vous savez les dimensions d'Israël dans l'Apocalypse? C'est 1600 km de carré, au carré. Jérusalem. J'avais dit quoi?
Israël.
Jérusalem va jusqu'à Bagdad. C'est une ville tellement grande, il y a tellement de nations dedans, 1600 km au carré. Mais quand vous allez déjà là-bas, vous voyez que ça se tasse en Israël. Hein, et il y en vient toujours. Alors, j'avais dit quel passage?
Isaïe 25.
Merci, John Cushion. Alors, Isaïe 25, quelle heure est-il?
Midi et tard.
Oh, catastrophe, il faut que j'arrête. Je voulais faire encore plusieurs prophéties. Alors, Isaïe 25, verset 6. Bon, je vais commencer au verset 5 pour que vous compreniez. Chapitre 25, verset 5. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi en ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Écoutez bien, vous avez compris. C'est une prophétie, ça. Et puis après, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Et oui, Israël n'est plus l'opprobre. Et tous ceux qui croient aussi en Dieu ne sont plus dans la honte et critiqués, et condamnés et chassés. Hein? Et vous voyez, car l'Éternel a parlé en ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Si vous voyez la petite parabole de deux versets, c'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Quand Jésus était avec ses disciples, il a tout expliqué. Et le collège des apôtres, les premiers apôtres, ils ont tout expliqué, ils avaient tout entendu.
avec l'Esprit Saint, nous avons tout réexpliqué. Au fur et à mesure qu'on a avancé, un siècle, deux siècles, ça y est, l'enseignement se perd, c'est la pagaille. Eh bien, les amis, aujourd'hui, dans nos églises et dans nos maisons, il faut revenir à un enseignement profond et sérieux. Et se rappeler que Jésus a dit, par mon Saint-Esprit que je vous donnerai, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Tout ce que je vous ai enseigné. Je m'efforce, en tout cas, pour ma part, de faire ce que Dieu vous a promis. J'avais 45 ans, j'étais à l'Institut biblique, et je devais bosser. Donc je rentrais à 10h du soir de travailler à la maison là-bas au-dessus, maison rose, et je étudiais jusqu'à 3h, 3h moins quart. Et j'avais toujours demandé à Dieu de comprendre sa parole, que ce soit clair, depuis l'âge de 16 ans. Hein. À 45 ans, je me rappelle, j'étais en train d'étudier la nuit. Pendant ces 3 ans-là, j'ai dormi 3h, 3h quart. Eh bien, pratiquement, tout devenait clair, lumineux. Je me suis rendu compte que tout se tenait. J'avais un soulagement, j'ai dit, merci Seigneur, j'attends ça depuis si longtemps. J'attends ça depuis si longtemps. Ce que vous désirez dans votre cœur, Dieu vous le donnera. Désirez la vérité et la lumière de sa parole. Le reste, à la poubelle, les autres désirs sont tordus. Alors, finalement, Israël perdra tout et se convertira comme Zachée. Zachée, c'est le cas typique, il reçoit Jésus, il abandonne tout. Il rembourse à tout le monde, il donne aux pauvres. Et il est heureux, il devient fils d'Abraham. Et puis, comme Lévi aussi, le copain Lévi qui était là-bas à Capernaum et qui ramassait tous les sous des caravanes qui venaient du monde entier, qui passait là. Et tout d'un coup, Jésus va manger chez lui, paf, Lévi devient Matthieu. Il suit Jésus. Ou c'est par contrainte. Si c'est pas par conversion, c'est par contrainte. Et c'est ce qui va arriver. Dans Ézéchiel 38, toutes les nations, Iran, Russie, c'est Gog, la Russie, Magog, Gog, c'est la Turquie, Magog, c'est la Russie, Elam, Perse, Kedar, c'est les Arabes, Tarsis, c'est l'Espagne, Javan, la Grèce, Put, la Libye, etc. Tout ce monde-là se met ensemble pour attaquer Israël. Et craque, badaboum. Et qu'est-ce qu'on voit dans Ézéchiel 38? Une guerre de butin. Ça y est, on va leur vider leurs poches, leurs comptes en banque, on va tout piquer. De ce fait-là, tout ce qu'ils ont accumulé, quick. Est-ce que c'est pas un grand bénéfice? Tout qu'on fait de se trouver déplumé, ne plus rien avoir. Et d'avoir Christ. La problématique d'Israël, il y en a qui se convertissent aujourd'hui, et il y en a des autres qui ne veulent pas se convertir, ben ils finiront par se convertir, par la force des choses. Je vais retirer tout ce qu'ils ont, et puis, hop. Et on va commencer à pleurer, hein. Vous avez déjà remarqué que des fois, quand vous êtes vraiment dans le caca, vous n'avez plus moyen de vous en sortir, c'est à ce moment-là que vous commencez à vous mettre à genoux et à prier. Ou vous râlez contre Dieu, vous opposez à lui. Mais si vous demandez à Dieu, vous êtes au bénéfice d'une grâce. C'est de comprendre que vous n'auriez pas dû l'abandonner et qu'il faut vivre avec lui. Et qu'il est vivant. Et si vous avez des frères et sœurs qui vous encouragent à vous confier en Christ, eh bien, à ce moment-là, vous avez une chance formidable. Vous avez la grosse perle. Et toutes des petites perles. Alors, les amis, tout ce qui a été annoncé pour Israël est du même type pour nous. Un pardon par grâce, accepté, ou un pardon par grâce, avec un coup de pied dans le derrière. Moi, j'ai eu besoin de coup de pied dans le derrière. Consolez-vous. Beaucoup. Le Seigneur ne m'a pas loupé. Alors, un abandon radical de nos idolâtries est programmé. Faites attention, les amis. Vous avez peut-être été baptisés. Vous avez peut-être dit, je crois en Jésus. J'ai entendu des messages, je crois en Jésus. Oui, j'accepte Jésus. Jésus est mort pour moi, je suis sauvé. J'ai reçu le Saint-Esprit.
Je vais à l'église, en plus je ne suis pas content de cette église-là, je vais dans une autre. Puis pour finir, je ne suis pas content nulle part, j'y vais plus. Et qu'est-ce qui se passe? Les péchés d'avant reviennent. Comment que ça se passe? Regardez la guerre de Troie. Troie est en guerre et assiégée par une autre nation grecque. Laquelle? Athènes ou Sparte? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils n'arrivent pas à prendre la ville de Troie. Hein? Pas Troie en Champagne, Troie en Grèce. Hein? Alors, pratiquement, ce qui se passe, il laisse un cheval de bois. Voilà. Oh, le beau cheval. Oh, je l'aime bien. On va le rentrer, va. Bah. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont... Mais ils ne se posent même pas la question pourquoi est-ce qu'ils l'ont lancé là. Et là-dedans, il y a 20 ou 30 hommes qui sont cachés. On le rentre. Et puis les ennemis sont partis, on fait la java. Et crac, et boum. Hein, on fait la disco. Et puis, les gaillards, ils descendent du cheval, ils ouvrent les portes, et toute l'armée qui est revenue pendant la nuit, elle prend la ville de Troie. Dans la vie chrétienne, méfiez-vous des chevaux de Troie. Merci, madame la professeure de français. Des chevaux. Pourquoi? Parce que des fois, on avance avec le Seigneur, on croit que tout est gagné. Où est le cheval de Troie que le diable a laissé tout près de vous et que vous trouvez mignon et que vous faites rentrer dans votre vie? Posez-vous la question, où est votre cheval de Troie? S'il y avait une réunion fraternelle et que vous pourriez tous ensemble partager, je veux bien ne pas être là. Comme ça, le pasteur, il ne nous jugera pas. Ben, je ne suis pas là pour juger, mais hein, peut-être qu'ils ont ce sentiment-là. Où est votre cheval de Troie? Où est le mien? Attention, le diable est rusé. S'il ne vous a pas eu d'une manière, il tourne, il est rusé. Vous ne pouvez pas faire rentrer de cheval de Troie, chevaux, dans votre vie chrétienne. Il faut être plus malin que le diable. Jésus l'a dit, soyez rusé comme le serpent, donc aussi malin que le diable, et doux comme la colombe. Le Saint-Esprit. Si vous avez compris ça, nous avons accès à la bonne perle. Adieu les idolâtries. Voilà, c'est...